Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Il va falloir montrer patte blanche. Depuis l'adoption en janvier 2023 d'une directive européenne, les entreprises de l'Union doivent être plus transparentes sur l'impact environnemental et social de leurs activités. Un texte de loi qui s'ajoute à la directive sur le devoir de vigilance adoptée récemment et qui porte sur leurs responsabilités en matière de droits humains. Bref, les entreprises vont être passées au scanner. Pour en parler, je reçois Alexis Gazeau, associé chez Ernst & Young, en charge des questions de changement climatique et de développement durable. Bonjour Alexis Gazeau. Donc, bonjour. C'est quoi cette nouvelle directive dont on parle beaucoup, qui porte donc au niveau européen sur le développement durable des entreprises?
Alors, cette directive, qu'on appelle la CSRD, on va se garder de prendre trop d'acronymes, est une directive qui a pour objectif de rendre beaucoup plus abondante le reporting en matière d'informations sur le développement durable publié par les entreprises. Mmh. L'idée, c'est bien d'avoir une information beaucoup plus abondante, mais également avec une qualité renforcée.
Donc plus précise.
Plus précise, exactement, ouais. Normée, donc avec un langage commun, si vous voulez, et également de manière vraiment harmonisée. Mmh. Cette notion d'harmonisation est importante pour pouvoir comparer les performances.
Les unes entre elles.
Exactement, chaque entreprise.
Alors, il y a cette directive, et puis il y a un tas de textes, à la fois au niveau français, la loi Sapin 2 contre la corruption, au niveau européen, le devoir de vigilance, etc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on demande tout à coup aux entreprises, là?
Simplement d'être en cohérence avec les engagements politiques que l'on a pris au niveau européen et national. J'aurais quand même rappelé que tout ça, ça s'appuie, ça vient du pacte vert européen, le fameux Green Deal que l'on connaît. Ce Green Deal, il s'appuie sur plusieurs éléments. D'un côté, un aspect normatif, c'est-à-dire se fixer des objectifs contraignants, par exemple sur le climat, c'est le Fit for 55 à horizon 2030. Avoir également, ce sont des subventions, donc des aides financières massives. Et le troisième élément, c'est la transparence. Mmh. Cette question de transparence, elle est importante pour pouvoir réorienter les capitaux vers les activités les plus durables. Et donc, pour savoir quelles activités sont les plus durables, vous avez besoin, effectivement, de normaliser et d'imposer la manière dont les entreprises doivent publier leurs performances sur les sujets extra-financiers, sur les sujets de développement durable.
De la même manière, des entreprises citoyennes.
Oui, tout à fait. De la même manière qu'on a aujourd'hui, et depuis des décennies déjà, une publication de la performance financière de l'entreprise, aujourd'hui, on normalise la performance extra-financière. C'est une nouvelle manière, finalement, d'exprimer la performance des entreprises.
Ouais, c'est ce qu'on appelle aussi le rapport ESG pour environnemental, sustainable, etc., durable de l'entreprise.
C'est ça, cette directive, elle impose bien, effectivement, de communiquer ces informations, vous avez raison, ESG, donc environnemental, social et de gouvernance. Et pour le normaliser, pour l'harmoniser, comme on le disait, elle a défini des standards, des normes techniques qui définissent de manière très très précise, effectivement, chaque information, comment celle-ci doit être divulguée, comment elle doit être calculée, comment elle doit être présentée.
Alors ça, on va y venir. Oui. Mais cet aspect sur les droits humains aussi, c'est nouveau ou pas?
Alors,
leur responsabilité.
Sur la question de comment les entreprises doivent se responsabiliser sur leur impact, mais aussi l'impact de leurs fournisseurs et leurs sous-traitants.
Toute la chaîne.
Toute la chaîne de valeur, voilà, en termes d'impact sur les droits humains, mais aussi sur l'environnement, ça a pris la forme d'une directive sur le devoir de vigilance européen, qu'on appelle la CS3D. Ouais. Cette directive européenne, elle s'inspire beaucoup de la loi française
sur le devoir de vigilance.
Qui date de 2017. Tout à fait. Donc, quelque part, c'est une extension au niveau européen de cette loi française, mais en la renforçant, puisque beaucoup plus d'entreprises seront assujetties, mais également les implications, les exigences sont renforcées. Par exemple, dans cette directive sur le devoir de vigilance européen, on demande à ce que les entreprises aient un plan de transition climatique. C'est-à-dire pour mesurer leur impact sur le climat, y compris dans leur chaîne de valeur, il faut s'assurer que leurs politiques, leurs pratiques sont compatibles avec l'accord de Paris sur le climat. Et j'ajouterais que, si vous voulez, cette directive sur le devoir de vigilance, c'est un petit peu le pendant de la directive sur le reporting. Dans le reporting, dans la directive sur le reporting, on doit publier sa performance. Avec le devoir de vigilance, on doit mettre en place un plan de gestion des risques. Vous voyez, donc il y a une complémentarité.
C'est quoi la réaction de vos entreprises? Est-ce qu'elles se disent « Oh là là, tous ces chiffres, qu'est-ce qu'on va nous demander ?»
Alors, Bien sûr, ça suscite des interrogations sur la capacité à mettre en œuvre une organisation pour pouvoir collecter, remonter, agréger toutes ces informations. Ça veut dire qu'il faut effectivement avoir les bonnes compétences, les bonnes ressources pour pouvoir faire ça. Peut-être aussi les outils informatiques. L'intelligence artificielle va faire partie des solutions d'ailleurs qui aideront. Donc bien entendu, ça pose beaucoup de questions sur la mise en œuvre et la complexité de la mise en œuvre de ces exigences. Et en même temps, beaucoup d'entreprises se rendent compte que c'est un levier d'action. Parce que finalement, ces exigences, elles vous imposent effectivement de communiquer sur des plans de transition, donc des plans d'investissement sur le climat, sur la biodiversité. Et donc, quelque part, ça permet de mettre en place des stratégies, des plans d'action là où il n'y en avait pas, et du coup, d'appuyer l'action, d'appuyer le passage à l'action.
Toutes les entreprises concernées ou pas, ou en fonction de la taille et du chiffre d'affaires
évidemment. Alors, beaucoup d'entreprises, il y a effectivement une notion de seuil, mais globalement, toutes les grandes entreprises européennes sont assujetties. Les PME cotées sont également assujetties. Donc, si vous voulez, c'est à peu près 50 000 entreprises.
Jusqu'à 2027 quand même.
Voilà, donc c'est une application progressive, c'est un point important. Effectivement, il y a une progressivité dans l'application et dans l'activation des différents seuils. Mais globalement, on a à peu près 50 000 entreprises qui vont être couvertes par ce dispositif.
Les filiales des entreprises étrangères ?
Également, effectivement, ça sera un peu plus tard, ça sera d'ici 3-4 ans, mais les filiales des entreprises étrangères au-delà de certains seuils, donc 150 millions de chiffre d'affaires en Europe, seront tenues de communiquer également sur leur performance extra-financière. Donc c'est intéressant, parce qu'il y a un principe d'extraterritorialité qui va s'imposer également, et donc on voit aujourd'hui des entreprises américaines, japonaises, commencer à travailler sur ce sujet.
Tenue, donc obligatoire ou pas ?
Ah oui, oui.
Vraiment ?
Oui.
Risque juridique si ce n'est pas fait ?
Oui, il y aura effectivement un risque de sanction, tout à fait.
Si l'entreprise ne le fait pas.
Oui.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on leur demande ? Quel type d'informations on leur demande ?
Alors, si vous voulez, par exemple, sur le climat, beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui reportaient déjà des informations sur le climat, notamment sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il faudra, dans le cadre de cette directive, reporter aussi, par exemple, sur le plan d'investissement qu'on a prévu pour décarboner son entreprise. Vous voyez, donc, c'est des informations qui se projettent vers l'avenir. C'est pas uniquement regarder dans le rétroviseur, mais également regarder vers l'avant, aujourd'hui, avec des éléments financier, donc on va préciser des investissements, des capex, donc c'est du financier. Cette connectivité d'ailleurs entre le financier et l'extra-financier, elle est vraiment au cœur de cette directive. Mais on va aussi demander des informations sur les sujets qui n'étaient pas très couverts aujourd'hui, par exemple la biodiversité, etc. Alors tout ça, c'est à nuancer, parce que ce qui sera communiqué dépendra de ce qui est jugé pertinent. Et la pertinence...
Qui juge ?
Alors, ce sera aux entreprises de faire une analyse de matérialité. Donc, c'est un terme défini par la directive. Et même de ce qu'on appelle la double matérialité.
Ouais, c'est l'impact que mon entreprise a sur l'environnement et l'impact de l'environnement
sur mon activité.
Exactement. C'est ça qu'on appelle la double matérialité.
Voilà. Et c'est un concept qui est intéressant parce que c'est vraiment cette directive européenne qui le met en place. Donc, ça met l'Europe un peu en avance par rapport à d'autres plaques géographiques sur ce sujet. Et donc, c'est en appliquant cette analyse de matérialité pour se dire finalement qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, pour ma transition vers une économie décarbonée, vers une économie plus écologique. Et bien, c'est à partir de cette analyse que je vais décider des éléments qui sont importants. Et c'est sur ces éléments que je communiquerai.
Voilà. Et je peux être accompagné, par exemple, par vous, Arsène Young.
Alors, nous, c'est notre rôle, justement, d'aider des entreprises soit à faire auditer ces informations, puisqu'on a un rôle d'audit, donc on va accompagner les entreprises pour auditer la qualité, la robustesse de leurs informations, mais on accompagne aussi, pardon, les entreprises sur la mise en place de toutes ces réglementations et, du coup, sur la réflexion sur comment est-ce que je dois mettre en place un plan de transition sur le climat, quelles sont les bonnes informations à communiquer, comment est-ce que je vais les reporter. Et donc, tout ce travail-là, on trouve qu'il est important de le lier avec une réflexion stratégique. Toute cette question d'effectivement de comment je mesure ma performance, elle doit être d'une part liée à une notion effectivement de se dire aujourd'hui ma performance extra-financière, elle a la même valeur, la même importance que ma performance financière. C'est pour ça que mes instances de gouvernance doivent valider ces éléments. Et donc quelque part, en ce sens, cette directive, c'est aussi une arme anti-greenwashing, hein, c'est quand même ça l'un des points essentiels. Et en même temps, c'est aussi une directive qui doit faire le lien avec la stratégie de l'entreprise, puisqu'on parle de sujets sur lesquels on s'engage à l'avenir. On s'engage sur le moyen terme, notamment sur les plans de transition climatique, etc.
Quand vous auditez, vous avez accès à toutes les informations de l'entreprise ?
On peut demander en tout cas d'avoir accès à tout ce qu'on veut, que ce soit des factures, des justificatifs
des mails.
De consommation d'énergie. Oui, bien sûr, parce qu'on va aussi regarder des informations qualitatives. Mm-hmm. Il y a du quantitatif, mais aussi des informations qualitatives sur des plans d'action, etc.
Et vous garantissez l'intégrité de ces informations.
Notre rôle, c'est en tant qu'auditeur, ça va être effectivement de s'assurer que les informations communiquées sont robustes, sont fiables, tout à fait.
Et qu'elles ne vont pas sortir en dehors de l'entreprise quand elles sont, ce sont des informations confidentielles.
Alors oui, pour celles qu'on regarde, bien sûr qu'on on travaille dans...
Donc vous, vous les aidez à publier des informations, j'allais dire blanchies, pour éviter des fuites d'informations.
Si vous voulez, nous, soit on intervient en tant qu'auditeur, et dans ce cas-là, notre rôle, c'est vraiment de donner un avis externe sur la qualité de l'information qui est publiée pour que les investisseurs, mais aussi le grand public, aient confiance.
Obligatoire l'audit ou pas sur ça ?
Oui, alors ça aussi, c'est une innovation de cette directive, c'est que l'audit est obligatoire. C'est-à-dire que parmi les éléments qui sont exigés par cette directive, pour assurer la qualité de l'information, il y a le fait que l'information doit être publiée en un lieu unique qui est dans le rapport de gestion de l'entreprise.
Oui.
Il y a le fait d'imposer que les instances de gouvernance, y compris le comité d'audit, valident les informations. Et il y a le recours obligatoire à un auditeur externe. Donc ça, effectivement, sont des éléments très importants. Donc ça, c'est l'un des rôles que nous, on peut jouer. Mais l'autre rôle que l'on joue, c'est à nouveau d'aider à la mise en place des éléments de contenu, mais aussi d'informations quantitatives.
Dernière question, Alexis Gazot. Est-ce qu'elles sont prêtes, les entreprises ?
Alors, il n'y a pas de réponse unique, puisque les entreprises sont en train de se préparer.
Si vous voulez, CAC 40 est prêt, quand même.
Il est en train de se préparer, mais il faut bien comprendre que cette directive, elle s'applique sur l'exercice 2024 comme premier exercice. Donc, ça sera pour des informations qui seront publiées début 2025. Et donc, les entreprises sont en train de se préparer. Certaines sont assez matures, parce qu'elles publiaient déjà beaucoup d'informations, mais même celles-ci, elles ont des éléments complémentaires qu'il faut préparer et publier.
Merci beaucoup Alexis Gazot pour vos réponses.
Merci à vous.
L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.